RMC.
Atem, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
After Marseille,
Nicolas Jamin.
Salut à tous et bienvenue dans le podcast After Marseille avec cette semaine, Florent Germain. Salut Flo.
Salut Nico.
Et Nico Villa, salut Nico.
Salut Nico.
Car oui, vous l'avez
salut
compris.
Salut Nico.
Salut Flo, compris. Salut Nico.
C'est mignon ça. Ouais. Nico, c'était un très prénom années 80 quand même là. Ah, on y est les amis.
Vous étiez combien par classe à peu près?
Moi, 3. 3 Nico par classe en moyenne quoi. Ouais, toi aussi.
Ouais, ouais, pareil. Puis j'étais le dernier sur la liste. C'est comme Villas.
Bien sûr.
Donc je me faisais
appeler par mon nom.
Ça, tellement ça m'énervait de ces Nicolas 1, 2, 3, ça me saoulait.
Flo avait un autre problème, je pense, lui, c'était Florian, Florent.
Exactement, ouais.
Comment, avec un T, sans T, alors, sans I, comment?
Non, voilà, ceux qui sont un peu plus anciens, je croyais que c'était Florian, et puis après, ça va, là, j'ai plus trop ce problème. Florent.
C'est quoi? Je trouve qu'il démarre super bien.
Flo pour les intimes.
On tient un truc là.
Et ça intéresse parfaitement nos Afteriens marseillais.
C'est l'After, l'After, c'est avec Jérôme aussi, Jérôme Thomas, le producteur. Vous étiez combien, Jérôme?
Voilà. Ah ouais, Jérôme, Jérémy, aussi le. Il y a aussi le drame des Thibaut, terrible aussi. Ouais. Comment écrire Thibaut? Ouais. Non, moi c'est un D, moi c'est un T, moi c'est un LT, bref.
Jimmy, il avait pas de problème.
Mais c'est un problème ça, il y a des parents qui n'y ont pas pensé.
Mais
c'est pas
personne n'en parle de ça d'ailleurs, mais heureusement, le RMC est là.
Parce que Nicolas, tu sais que normalement il y a un S, alors sauf exception. Mais Thibaut, moi je pense que les parents qui appellent leur enfant Thibaut, ils créent déjà un problème à la base.
Ils les aiment pas vraiment, tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire.
En revanche, un mec qui avait aucun problème, qui avait une totale exclusivité en classe, c'est Gilbert.
Ouais,
mec peinard. Que ce soit à l'école primaire, au collège, à la fac, seul au monde. Alors vous l'avez compris, puisque Nico est là, épisode consacré au très attendu Benfica OM, le quart aller jeudi prochain, le quart retour le jeudi suivant. Cette question, cette semaine dans le podcast After Marseille, cet OM actuel est-il armé pour sortir les Lisboètes? Que vaut réellement ce Benfica? Est-il encore le même qui a galéré contre Toulouse en barrage? Vous écoutez le podcast After Marseille, c'est parti. Alors messieurs, évidemment, je tiens d'abord à rappeler que l'OM n'a jamais battu le Benfica Lisbonne en Coupe d'Europe. On se souvient tous de la présumée main de Vata. Quand je dis présumée, je pense que c'est un bon 10 en m'écoutant. En demi-finale de C1, il y a 34 ans en 90, qui a éliminé l'OM de Tapie.
Il n'a jamais éliminé le Benfica, mais a déjà battu
sur
un match le Benfica.
Vata qui affirme
dans un match qui reste pour certains supporters de l'OM, peut-être l'un des plus gros matchs. Alors, le traumatisme, c'est le match retour, mais le match aller est considéré par beaucoup de supporters de l'OM, enfin ceux qui l'ont vécu, comme l'un ou le plus gros match de l'histoire de l'OM. Le 2-1 dans un match, je sais pas si Nico, tu t'en souviens.
Moi, je me souviens de ce drame en tout cas. Ouais,
mais en fait, l'OM au match aller surtout en deuxième période, ils doivent
faire le, enfin gagner
largement. Peut marquer 4-5 buts, quoi. Ouais. Peut s'imposer 5-1 et donc c'est vrai que en ce sens, le match retour en plus à être la main a été vécu comme un traumatisme.
Exactement. Alors plus récemment, je rappelle également que l'OM avait perdu en huitième de finale de la C3 en 2010 contre Benfica. Alors Flo, avant Benfica, il y a Lille. À Lille, vendredi pour Marseille. Tiens, d'abord petit point infirmerie. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles?
Écoute, non, j'ai des points d'interrogation. À l'heure où on enregistre, pour être honnête, je ne sais pas si Chancel Bemba sera disponible pour Lille, et je pense qu'il va plutôt être préservé pour justement Benfica. On évoquait encore mardi plutôt une contusion, donc un coup au genou, ce qui était une bonne nouvelle, parce qu'honnêtement, quand je l'ai vu sortir contre Paris, je craignais le pire, voire une fin de saison. Enfin, vu la poisse actuelle dans ce domaine pour l'OM, c'était vraiment pressenti comme un futur coup dur. Donc les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Chancel Bemba, mais je ne sais pas s'il sera disponible pour Lille, et je n'en suis pas sûr du tout. Et les autres retours qui sont espérés dans les jours qui viennent, mais je pense que ce sera un petit peu juste pour les avoir, notamment contre Lille, c'est ceux de Jean Onana et d'Ismaïla Sarr. Sarr pourra y revenir contre Benfica. Onana non, puisqu'il n'est pas qualifié pour donc la Ligue Europa, et Ulysse Garcia non plus. Donc puisqu'on va surtout s'attarder sur ce match contre Benfica, on peut quand même évoquer le fait que contre les Portugais, il y aura vraiment un gros problème à régler, notamment sur le côté droit, parce que Ulysse Garcia donc n'est pas qualifié, Klaus sera encore blessé, enfin au moins pour le match aller. Le retour, c'est même pas certain qu'il soit dispo. Murillo va un petit peu mieux, mais de là à penser qu'il sera disponible pour Benfica, je ne pense pas. pas. Donc le côté droit de l'OM, alors là, c'est faites vos jeux, mais c'est compliqué d'imaginer. Pour le reste, Balerdi a plutôt souffert de crampes, même s'il est sorti en cours de match. Ça va aller, je pense, pour Léo Balerdi, qui lui était en délicatesse avec ses adducteurs. Et Samuel Gigot, lui, manque de rythme. Mais bon, plus les jours passent, plus l'épaule, tout ça va rentrer dans l'ordre. Même si on a bien vu que, voilà, qu'il n'était pas à 100% loin de là quand il a remplacé Chancel Bemba contre Paris.
Bon, Flo, est-ce qu'on est conscience à Marseille que Aligo Europa, c'est le bon pare-feu d'une saison globalement ratée? Alors, je vais un peu vite, hein. Je rappelle que Marseille est 7ème de Ligue 1, très loin de ses espérances. Quasi largué pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. La question, c'est, au-delà d'une qualif pour les demi-finales de la Ligue Europa, c'est aussi presque un cache-misère. Qu'est-ce qui se passe après 6 éliminations, notamment contre Benfica?
Non, mais t'as tout à fait raison d'évoquer ça et d'employer le mot pare-feu ou tout simplement de résumer en disant que ce parcours en Ligue Europa, ce quart de finale qui en plus est quand même excitant. Enfin, à Marseille, on a envie de vivre cette double confrontation et notamment le match retour contre Benfica, et on se met à rêver s'il y avait une élimination, pourquoi pas une demi, pourquoi pas Liverpool. Donc en fait, tout ça tient en haleine les supporters, c'est ce qui pimente cette fin de saison. Et pour le reste, j'ai envie de dire, quand il n'y aura plus cette Ligue Europa, et on espère le plus tard possible pour les Marseillais, là, beaucoup de dossiers seront sur la table, énormément de dossiers. Les supporters sont très mécontents de cette saison globalement. Il y a de la grogne en virage, mais évidemment, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc, on attend avec enthousiasme et passion ce match de Ligue Europa. Je pense que certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur ou qui se posent des questions sur leur avenir, bah, dès qu'il y aura l'élimination en Ligue Europa, et si l'OM ne revient pas dans le coup en Ligue 1, et je pense honnêtement, en petite parenthèse, que si Marseille ne gagne pas à Lille, l'OM pourra dire au revoir à la Ligue des Champions. Ça me paraît évident. Donc pour moi, ce match de vendredi en termes de qualif en Ligue 1 et d'espoir d'avoir la quatrième place, il est primordial. L'entraîneur, le dossier de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, forcément, il y a quand même de fortes probabilités qu'il n'ait été ici que pour un court intérim, lui-même le répète. Donc le dossier sera ouvert dès qu'il y aura élimination en Coupe d'Europe. L'avenir des dirigeants aussi, voilà, est-ce que Pablo Longoria aura ce courage, cette force de continuer? Est-ce qu'il veut des changements? Bon, bref, tout ça, t'as raison d'employer le terme. La Ligue Europa sert quelque part à maintenir tout le monde en alerte, et je pense que quand il n'y aura plus ce piment là, eh bien ça mettra presque fin à la saison olympienne, sauf si y a un petit miracle en Ligue 1.
Donc clairement, Marseille joue gros vendredi et jeudi prochain déjà. Tiens, Nico, Benfica joue gros également dans les prochains jours d'ailleurs. Hein.
Alors déjà, ils viennent de perdre gros puisqu'ils viennent de se faire sortir en demi-finale de Coupe du Portugal par le Sporting, donc en plus qui est l'ennemi et le rival. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette demi-finale au Portugal, c'est aller-retour. Ils avaient perdu l'aller 2-1 contre le Sporting. Ils ont fait 2-2 au retour. Ils ont fait un très bon match d'ailleurs, au match retour. Donc là, ils sont éliminés. Ils vont rejouer le Sporting en championnat. Et l'autre demi-finale, c'est Guimarães-Porto. Il va y avoir le match retour. Ils vont se retrouver en championnat aussi le week-end qui suit. Donc là, ils viennent déjà de se faire éliminer donc de demi-finale de Coupe du Portugal. Ils avaient été reversés de Ligue des Champions. Alors en championnat, ça va être un match très important face au Sporting, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart. Voilà.
C'est samedi, c'est ça. Hein.
Voilà, exactement. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Le Benfica est deuxième. Et surtout, chose très importante là aussi, et qui donne aussi beaucoup d'importance à cette Europa League pour les clubs portugais, c'est que la saison prochaine, les clubs qualifiés en Ligue des Champions au Portugal, c'est 1+1. C'est-à-dire le premier, le champion, est qualifié pour la phase de groupe. Et le deuxième, il fait le troisième tour préliminaire. La troisième place, maintenant, est qualificative pour l'Europa League. Donc c'est très important donc pour le Benfica de ne pas se faire larguer. Et surtout, de prendre la première place, de garder son titre de champion, sachant qu'ils avaient été sortis de la Coupe de la Ligue également, et qu'une saison blanche, ça ferait tâche. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, parce que tu parlais
des... En clair, s'ils perdent samedi contre le Sporting, c'est terminé, parce qu'ils ont un match en plus.
Voilà.
Ils seront à 4 points, terminé.
T'as raison de le rappeler, il y a en plus le match en moins du Sporting. Et tu faisais référence aux blessés de Marseille. Alors, c'est vrai que Marseille, ils n'ont pas de bol par rapport à ça, notamment avant le match au Benfica à venir. En revanche, ils ont un avantage par rapport au Benfica, c'est que entre la double confrontation, Marseille n'aura pas de match de Ligue 1 puisque ça a été décalé. Et au Portugal,
le match de Nice, voilà, décalé au 24.
C'est une question qui a été posée là il y a quelques jours au président de la Ligue, en disant mais en gros, en France, les Marseillais sont mis d'accord pour décaler leur match de championnat. Pourquoi on l'a pas fait pour le Benfica? Alors lui, il a expliqué, Pedro Proença, en disant on s'est concerté avec le Benfica. Il y a des saisons où c'est des choses qui ont été faites, hein, de décaler des matchs de championnat pour privilégier l'Europe. Et on a décidé en concertation que c'était pas utile. Donc c'est quand même assez curieux de te dire, Tu vas avoir des matchs hyper importants là en championnat pour le Benfica. Et finalement, cette Coupe d'Europe qui est quand même hyper importante pour les clubs portugais, tu décides de ne rien toucher finalement. Donc le Benfica aura moins de temps de récupération. Et surtout, le Benfica, ils ont joué 47 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. C'est 6 de plus que l'OM. Donc l'OM a peut-être des joueurs blessés, mais le Benfica a plus de minutes dans les jambes.
Comment on vit cette présence en quart de finale? Elle n'est pas inédite, hein, bien sûr, pour le Benfica Lisbonne. Flo parlait d'excitation, d'enthousiasme, de passion à Marseille. Est-ce que non seulement le stade des quarts de finale excite les supporters lisboètes, en plus d'affronter Marseille pour le caractère historique, pour ce que Marseille représente également?
Alors, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que l'ensemble de la presse portugaise, au moment du tirage, il y avait surtout du soulagement. C'est-à-dire, il y a une expression en Portugal, les gros, c'est Oxtubarões, chez les requins. En gros, le Benfica a évité les requins. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que l'OM, il y a toujours une forme de respect. Forcément, tout le monde allait rechercher Vata, donc il n'y avait pas main, c'était de l'épaule, hein, 34 ans après, pourquoi je mentirais. Lui continue là-dedans. Il y a cette référence historique aussi qui est très forte. Il y a un bilan quand même historique, on aime bien les stats au Portugal, qui est quand même assez... positif face au club français d'une façon générale. Il y a une forme de respect, mais une forme de soulagement de se dire on a quand même évité un gros. Après, il y a aussi le fait que le Benfica est un club historique. Ils ont la fameuse malédiction de Gutmann depuis la victoire dans les années 60 en Ligue des Champions. Gutmann se fait virer et dit vous gagnerez pas de Coupe d'Europe pour les 100 prochaines années. Et le Benfica depuis a le record de défaites en finale au niveau européen, enfin en finale européenne, ce qui est complètement hallucinant. Mais il y a la volonté quand même d'aller loin. Il reste sur deux quarts de finale de Ligue des Champions. Il se reversait de Ligue des Champions. Il y a une forme finalement de, je vais pas dire d'honte, mais de rendez-vous manqué. Le Benfica, ils ont débuté par 4 défaites en Ligue des Champions. Ils arrachent in extremis une place de reversée en Europa League dans la dernière journée. Mais il y a quand même le truc de se dire, on restait sur deux quarts de finale de Ligue des Champions. On se qualifiait à l'arrache pour l'Europa League. Ils ont quand même envie de faire bonne figure, les benfiquistes.
Et d'ailleurs, à Marseille, c'est marrant parce que beaucoup s'intéressent depuis le tirage aux performances de Benfica. Et quand tu parles avec des supporters de l'OM ou même quand on en parle avec des membres du club, ils savent pas trop ce que vaut vraiment cette équipe de Benfica. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'équipe qui la compose, tu vois qu'il y a quand même des bons joueurs. Il y a quand même de très bons joueurs au Benfica. Et honnêtement, quand tu regardes pour moi les deux effectifs, si je dois donner mon avis, j'ai le sentiment que le Benfica est quand même au-dessus.
Supérieur.
Et supérieur. Mais malgré tout, les amoureux de foot ont vu le match contre Toulouse. Regarde aussi ce qu'a dit Nico, les performances en Ligue des Champions. Donc exactement. En fait, tout ça fait que tu te dis, il y a peut-être un coup à jouer. Et je pense que c'est peut-être le risque. J'espère que les joueurs se disent pas, ça va le faire. En plus, on reçoit au retour, etc. Je pense qu'il faut que l'OM aborde quand même cette double confrontation avec l'idée que Benfica, malgré quelques tracas cette saison, comme l'a expliqué Nico, c'est quand même costaud.
T'as raison de le dire, parce que moi, il y a un truc que j'arrive pas à expliquer, c'est que l'année dernière, c'était de loin l'équipe qui jouait le mieux au Portugal. Ils ont prolongé Roger Schmidt, l'entraîneur, l'allemand, à juste titre. Et finalement, ils ont eu des... En fait, c'est pas une équipe qui est stable. Ils ont des trous d'air. Ils en ont eu notamment la double confrontation contre Toulouse a illustré ça à la perfection. Même face aux Rangers, ça a été compliqué pour le Benfica au tour suivant.
Ils font nul contre Toulouse et victoire également.
Voilà. Mais quand tu vois
le match, à la 98e, ils se qualifient. Quoi.
Voilà. Mais quand tu vois le match, comme dirait notre Polo, c'est une anomalie statistique. C'est complètement ouf comme match.
Mais
le match est dingue. Nous, on l'avait suivi sur RMC. On était devant la télé. On se disait, mais attends, mais 3-4-0, ils doivent perdre 3-4-1. Allez. Et finalement, ça passe. Mais au-delà de ça, dans le contenu, il y a un truc qui est bizarre. Donc l'entraîneur est le même, mais t'as perdu des joueurs clés à des postes clés qui n'ont pas été remplacés. Je pense à Grimaldo qui cartonne avec Leverkusen. Au final, c'est un mec qui est milieu de terrain axial, qui joue latéral gauche chez Frédéric Arsnes, qui joue à tous les postes. D'ailleurs, il a joué à tous les postes avec Schmidt. Ils ont eu beau recruter 3 latéraux gauche, c'est quand même Arsnes qui joue le latéral gauche. João Mario, qui l'année dernière avait terminé deuxième meilleur buteur, c'est plus le même João Mario. Florentino Luis, qui l'année dernière était le taulier du milieu de terrain, je sais pas pour quelle raison, Schmidt a décidé de le faire jouer un match sur deux comme titulaire, et pourtant il reste le meilleur récupérateur de ballon. Il y a une stat du CIES qui a été sortie cette semaine. C'est le mec qui récupère le plus de ballons au milieu de terrain cette saison, tout championnat confondu, et continue de ne pas être un titulaire indiscutable. Et puis bien sûr, Gonçalo Ramos est parti au Paris Saint-Germain, vendu chèrement. Ils ont recruté deux attaquants brésiliennes, et il n'y a aucun qui fait l'affaire. Et les deux meilleurs buteurs du Benfica, c'est un milieu off, Rafa Silva, et Angel Di Maria, voilà, que les Parisiens connaissent bien, qui sont deux milieux offensifs, un latéral et un milieu off, qui sont en plus en fin de contrat. Enfin, il y a une espèce d'irrationalité dans le jeu et dans les résultats du Benfica cette saison, qui font que, et là je te rejoins à Flo, les Marseillais peuvent se dire, il y a peut-être un coup à faire, effectivement.
C'est vrai que sur le papier, bon, il y a des noms. Hein. T'as cité Di Maria, Rafa Silva, qui est là depuis maintenant, je crois, 7e saison, qui a 46 matchs, 19 buts, 14 passes, meilleur buteur de Benfica. On a Di Maria qui est dans ses standards également. 41 matchs, 15 buts, 12 passes. On a Otamendi. Otamendi, là, rapidement, Nico, comment juge sa saison?
Bah, enfin,
le vieil Otamendi.
Ça reste l'un des tauliers.
Capitaine, 36 ans.
On aime bien au Portugal, au Sporting Tacoates, l'Uruguayen, ouais. Pareil, capitaine, qu'on prolonge également. Et à Porto Tapep, si tu veux, les gros clubs aiment bien s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Otamendi avait connu une grosse histoire avec le FC Porto. Il avait eu des débuts très très compliqués avec le Benfica. Physiquement, il n'était pas au point. Et là, maintenant, bah, c'est un taulier. Avec à côté de lui, le petit Antonio Silva, dont on parle au PSG aussi, qui va être vendu des millions. Il y a un joueur qu'il faut qu'on cite aussi. Parce que c'est la pépite du Benfica. C'est un joueur qui est merveilleux. C'est João Neves, le petit milieu de terrain. Ceux qui n'ont pas joué,
hein.
Vous allez le découvrir. Clause à 150 millions. S'il reste l'année prochaine, je pense que c'est du miracle parce que le Benfica va, surtout s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ils vont devoir compenser la perte de ne pas se qualifier au niveau financier. Ils vont être très certainement obligés de le vendre. Mais c'est un joueur qui est merveilleux. Petit milieu de terrain, un peu un joueur. C'est un joueur des années 80-90. Voilà, un joueur très technique, très fin, très intelligent, très vif. Enfin, moi, j'adore. Jean Neves, tu ne peux que aimer ce genre de joueur.
Tu as parlé d'Antonio Silva également, hein, défenseur central, 20 ans, que le PSG regarde très attentivement. Il y aurait eu, d'ailleurs, hier, lors de ce Benfica Sporting, un émissaire du PSG pour observer encore le défenseur portugais. Flo.
Je pense que ce serait une double confrontation. Enfin, je peux me tromper,
vas-y.
Mais si on se mouille un peu, qui peut être spectaculaire. Parce que si l'OM récupère, par exemple, Ismaïla Sarr, on a Aubameyang qui carbure plutôt bien en Ligue Europa et voilà, il est un peu transcendé dans cette compétition. Malgré tout, c'est un parfum différent parce que en Ligue 1, t'as l'impression que l'OM, je sais pas, traîne quelque chose alors que c'est pas le même visage qu'ils affichent en général en Coupe d'Europe. Et puis bon, on est quand même sur deux très beaux stades. Ça a le parfum d'un match qui peut être ouvert, voilà, exactement, et qui peut être vraiment très sympathique.
Et c'est prestige et gala pour ces deux formations. Flo, si on se projette déjà, puisque c'est dans une semaine, un peu moins si vous nous écoutez en fin de semaine, est-ce que tu as une compo en tête, toi? Est-ce que tu imagines quelque chose que Gasset pourrait dessiner pour ce quart de finale aller? Hormis la question du latéral droit qui est une énigme pour l'OM, sûr.
Bah en fait,
est-ce qu'on a suffisamment désormais de certitude à Marseille pour savoir quelle est la meilleure équipe qu'on peut aligner contre Benfica?
J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas trop le choix en vrai, hein, du côté de l'OM. Paolo Lopez va être dans le but. Si Chancel Bemba revient, et je le souhaite parce que pour moi c'est peut-être le meilleur Marseillais de la saison, donc Mbemba, Balerdi, si jamais il y a une galère au poste de latéral droit, je serais pas étonné que l'OM essaye de défendre à 3 à l'aller avec Gigot, pour du coup mettre Quentin Merlin piston gauche et un piston droit soit un peu hybride comme on l'avait vu sur certains matchs à domicile avec par exemple Ismaïla Sarr, voire Luis Enrique, je sais pas, mais il faudra trouver une solution sur le côté droit. Après tu as Veretout et Kondogbia qui me semblent quasiment obligatoire au milieu de terrain. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Même Pape Gueye, hein, n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Hein. Donc, il y a quand même eu des choix assez forts, hein, puisque Valentin Rongier est à l'infirmerie. Il est sur la liste. Évidemment, il ne peut pas jouer. Bon, personne ne pouvait savoir que ça allait mettre autant de temps à rentrer dans l'ordre pour Rongier. Donc, Veretout, Kondogbia, et puis trio, Aubameyang, Harit. Et puis peut-être Ndiaye il retrouve quelques sensations, parce que moi je le trouve un peu en dedans depuis au moins 2-3 matchs. Sinon il peut y avoir Unai voilà, sinon il y a pas trop le choix en fait, hein, du côté de l'OM. Donc même sur le banc dimanche contre Paris, il y avait pas trop de solutions. Mumbanya fait pas une entrée extraordinaire, il a du mal à convaincre totalement Jean-Louis Gasset. Donc les 11 probables, je les ai quasiment cités.
Sur quoi Marseille doit appuyer contre Benfica? Autrement dit, quelles sont les carences de ce Benfica-là? Tu en as cité quelques-unes déjà. Quelles sont les zones que Marseille peut exploiter?
C'est une équipe qui est assez insaisissable et contradictoire. Par exemple, ils ont la deuxième meilleure attaque, deuxième meilleure défense du championnat. Et en revanche, en Coupe d'Europe, ils ont une tendance à encaisser des buts qui ne leur ressemblent pas du tout en championnat, justement. Elle est vraiment difficile à analyser, cette équipe de Benfica, à cause de ça. Après, tu as... moi, j'ai regardé un peu les statistiques. Il y a un truc que je trouvais très curieux, mais ça concerne limite plus l'OM que Marseille. Le Benfica, ils ont tendance à marquer en gros 20% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Et en moyenne, une équipe encaisse entre 15 et un peu moins de 20% de buts sur coup de pied arrêté. Et Marseille, ils encaissent 40% de buts sur coup de pied arrêté quasiment. ce qui est quand même colossal et assez énorme. Je pense que le Benfica va beaucoup insister là-dessus. Après, pour moi, si le Marseille doit
ils ont surtout un très bon tireur de coup franc. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai pas vu tous les matchs loin de là, mais moi j'ai le sentiment que quand Di Maria
ou Rafa, ouais,
sur coup de pied arrêté, ouais.
Après Marseille, ils doivent insister précis, hein, sur les latéraux, parce que c'est d'accord, ce que je te disais tout à l'heure. Orsnes, il a beau faire le taf et plus que le taf, ça reste pas son poste. À droite, Bam a repris sa place en latéral droit, mais il a souvent été blessé et c'est pas un joueur qui fait véritablement l'affaire. Même Morato, parfois, qui est défenseur central, un joueur qui était suivi par Rennes notamment, joue à ce poste-là. Défensivement, c'est pas une équipe qui est totalement au point. Et puis au milieu de terrain, tu sens que Schmidt cherche encore la formule. D'ailleurs, un truc que je trouve assez intéressant sur cette double confrontation, c'est que forcément, alors à Marseille, on connaît hein, l'atmosphère, la pression qui existe, le côté très passionnel. Et au Portugal, les trois gros clubs fonctionnent comme ça aussi. Mais il y a là, cette saison-là, et depuis quelques semaines, et notamment le début d'année, et le gros trou d'air qu'il y a eu au Benfica, Schmidt a été très contesté, l'entraîneur. Il y a une affaire avec Kökçü aussi, qui est le joueur le plus cher de l'histoire du Benfica, qui a été recruté pour plus de 20 millions d'euros l'été dernier, l'international turc. Il a balancé une interview, là, il y a 15 jours, où il déglingue le club et son entraîneur surtout, en disant « Moi, je suis un milieu off, je joue pas à mon poste, on me demande de défendre. J'ai pas été traité à ma juste valeur. » Vraiment, il a envoyé du lourd dans un quotidien néerlandais, et ça a foutu en boucson pas possible au Benfica. Donc Schmidt a été obligé d'éteindre l'incendie, il a été sanctionné par le club, il s'est mangé une amende. Mais si tu veux, il y a un climat qui est finalement assez hostile aujourd'hui au Benfica. Schmidt a eu droit au mouchoir blanc il y a pas si longtemps que ça dans les tribunes, de la part de ses supporters. Kökçü s'est fait siffler quand il est rentré en jeu lors du dernier match. Enfin, si tu veux, il y a vraiment un truc qui te fait dire que ça sent pas bon à Marseille en ce moment, pour plein d'histoires, parfois hors foot, les histoires de tifo, tout ce que tu veux.
Ça, c'est un sommeil à Marseille. Tout peut exploser, en tout cas, on ne souhaite pas. S'il y a
des volcans,
si élimination.
Voilà, en sommeil permanent. Mais tu sens qu'au Benfica, c'est pas la stabilité, la tranquillité qu'il y avait encore quelques mois. Quoi.
Comment on vit ces trois défaites consécutives, Flo, justement? Est-ce qu'on se dit, bon, circonstances compréhensibles, Villarreal, match retour, il pousse, c'est normal. On joue trois jours après Rennes, on est fatigué. Puis le PSG, évidemment. Est-ce qu'on se dit quelque chose de, la machine s'est enrayée ou que non, on va repartir de l'avant comme on l'a fait avec Gassé lors de sa prise de fonction?
Ça, c'est le discours un peu positive attitude du staff et de Jean-Louis Gasset, notamment lors des interviews après Rennes ou après Paris, où effectivement la circonstance atténuante contre Paris et avec la trêve qui a été compliquée, c'est qu'il y avait eu pas mal de blessés. À Rennes, tout le monde a reconnu au sein du staff et même chez les joueurs que l'équipe était un peu à bout, donc les explications étaient toutes trouvées et c'est pour ça qu'on a cherché à relativiser quelque part ces deux défaites là. Je compte pas trop Villarreal parce que au final ça restait une qualification, même si l'OM a quand même pris l'eau là-bas et ça aurait pu être un vrai couac. Après, la vision en interne, elle est un peu différente chez les dirigeants ou certains proches du groupe qui ont vu quand même que l'OM était retombé dans certains travers à la fois à Rennes et contre Paris. C'est pas parce que c'est Paris que la défaite elle est passée crème comme on dit. Hein. Ça a été très mal vécu en interne de voir ce caractère-là, ce manque de caractère en deuxième période, le manque d'intensité dans le jeu, le fait de se prendre deux contre alors que t'es à un de plus, ça a été vécu comme quelque chose d'assez inédit voire incroyable par certains à l'OM. On en a assez peu parlé parce que c'était la trêve, on est passé à autre chose, mais le visage affiché par l'OM à Rennes, alors qu'il y avait, rappelez-vous, à ce moment-là, un vrai coup à jouer au classement, on estimait que c'était quelque part un manque de professionnalisme d'avoir affiché ce visage-là chez certains joueurs. Donc voilà, la grogne est là, mais comme tu dis, elle est un peu en sommeil par rapport au fait que les échéances s'enchaînent, avec notamment ce double match important de Coupe d'Europe contre Benfica.
Et on sera là pour le débriefer, bien sûr, la semaine prochaine, le retour la semaine suivante. Merci à Nico Villas, c'était extrêmement complet. Vous en savez
Merci
plus
Nico.
Déjà, avec un
Merci
peu d'avance.
Pour être totalement complet, il te manque plus que quelques bonnes adresses à Lisbonne.
Et oui,
conseils à Estadio de la Luz.
Tu les as, Flo, ou tu te donnes Nico là?
Non, mais bon, j'ai déjà.
Le problème, c'est
déjà
que Flo, il veut des trucs
à Lisbonne.
Je peux pas balancer à l'antenne. Donc
Non, je suis déjà allé à Lisbonne plusieurs fois, mais j'ai besoin d'une petite réactualisation. Et évidemment, je sais que je suis très content d'aller dans ce stade-là parce que avec l'OM,
commence pas à foutre encore plus la rage de pas pouvoir y aller.
Il y a eu beaucoup de matchs au Portugal, Porto, sympa. Sporting, etc. Et voilà, sur mon sur ma petite carte d'Europe, il me manquait ce déplacement à.
Ah, tu l'as jamais fait en plus, la louche ?
Non, moi je l'ai fait une fois, c'est extraordinaire.
En plus, t'as le centre commercial juste à côté, le Colombo, là, le plus grand centre commercial de Lisbonne. Tu vas voir,
c'est un très beau stade en plus. Et puis, je regarde la météo, a priori, il fera 25 degrés dans l'après-midi.
Plein
soleil à Lisbonne. Tu vas être bien, Flo. Flo, on te retrouve la semaine prochaine pour débriefer Lille notamment.
Plaisir,
c'est le podcast After Marseille. Merci de nous avoir suivis.
Ciao, ciao.
Merci Nico. Très bonne semaine à tous. Bye bye.
RMC After Marseille.